Chapitre 6e. Comment le comte d'Angers et la belle Corisande s'invitèrent sans cérémonie à déjeuner chez le roi Marsile, et quelle fut la suite de cette aventure. Aucun autre incident ne troubla pendant 2 jours le cours de cet heureux voyage. Dès le matin du 3e jour, on aperçut les remparts de Saragosse, capitale du roi Marsile. 120 tours, aujourd'hui détruites, défendait cette ville illustre qui disputait le pas à Grenade, à Cordoue et à Bagdad même, la ville des califes. Roland regarda quelque temps avec admiration cet imposant spectacle. Tout à coup, une idée folle traversa le cerveau de la belle Corisande qui chevauchait tranquillement à ses côtés. « J'ai envie, dit-elle, de déjeuner ce matin chez le roi Marsile. »« Princesse, dit Roland, avez-vous confiance en moi ? Pouvez-vous le demander ?» répondit-elle en le regardant d'un air de reproche. « Eh bien, dit-il, allons déjeuner chez le roi Marsile. »« Y pensez-vous, seigneur ? » s'écria la nourrice effrayée. « Voulez-vous livrer la princesse à son plus cruel ennemi ?»« Tais-toi, nourrice, répliqua Corisande. « Et vous, seigneur, ajouta-t-elle, montrez-moi le chemin, je suis prête à vous suivre. » Roland regarda la princesse de Grenade et vit dans ses yeux tant de courage et de gaieté qu'il en fut transporté de joie. « Ah » dit-il, en se baissant sur le col de bride d'or pour baiser le bas de sa robe, « qu'il serait doux de mourir pour vous. »« Vivons, » dit gaiement Corisande, « et allons déjeuner. » Au même instant, Roland saisit son corps et sonna d'une manière si imposante que toute la garnison de Saragosse, composée de plus de 100 000 sarrasins, monta sur les remparts pour voir le chevalier et sa compagne. La beauté de Corisande et la haute mine du neveu de Charlemagne frappèrent d'admiration tous les spectateurs. Balugan, l'un des principaux émirs de Marsile, s'avança lui-même à cheval avec une suite nombreuse pour recevoir le nouveau venu. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'abord. « Allez dire au roi Marsile, répliqua Roland, qu'un chevalier français accompagné d'une dame lui demande l'hospitalité pour un jour dans son palais. » Marsile était au milieu de son conseil lorsqu'il reçut ce message hautain. Assurément, ce chevalier est un envoyé de Charlemagne. Dans tous les cas, qu'il soit le bienvenu et qu'il partage avec nous le pain et le sel. Malgré tout son courage, Corisande ne put s'empêcher de trembler en entrant dans Saragosse. Derrière elle, on leva le pont et l'armée innombrable des Sarrasins forma 2 haies dans les rues pour voir passer le cortège. La petite troupe de Roland n'était qu'un point dans cette foule immense. Roland devina les inquiétudes de la belle Corisande et se hâta de la rassurer. Marsile est reçu assis sur son trône et entouré de 40 émirs des plus illustres de l'univers. À sa droite était le roi de Nubie, qui portait sur son armure la peau d'un tigre qu'il avait tué lui-même au fond des montagnes de la Lune où sont les sources du Nil. À sa gauche était le sultan de Babylone, le célèbre Argidospadès, qui n'avait point d'égal parmi les plus braves chevaliers de la Perse, de l'Inde et du Katai. Au pied de Marsile était couché un lion, dont les rugissements portaient la terreur dans l'âme des plus intrépides. Roland s'avança d'un pas fier et tranquille, inclina la tête et dit « Grand roi, ta renommée qui s'étend jusqu'aux extrémités du monde m'a fait désirer de te connaître, et je viens voir ta cour la plus brillante de l'univers après celle de l'empereur Charlemagne, mon souverain. » Ces derniers mots excitèrent quelques murmures, mais le roi fit signe de la main et dit « Qui que tu sois, noble chevalier, tu es le bienvenu dans mon palais, ainsi que la dame qui est sous ta garde, et dont les yeux sont 2 fines émeraudes. Viens partager avec moi le pain et le sel. Après leur pas, tu nous diras ta naissance et ton nom. » Roland s'inclina de nouveau ainsi que la belle Corisande, et toute l'assemblée passa dans la salle des banquets. Les chevaliers s'assirent, et le roi Marsile voulut faire placer Corisande à côté de la reine sa femme, mais la princesse de Grenade refusa modestement cet honneur, et Roland se plaça près d'elle en face du roi. En ce moment, les écuyers entrèrent portant les viandes sur des plats d'or, et remplirent en silence la coupe d'agate que chaque convive avait devant lui. Tout à coup, Roland se leva. « Or ça, dit-il, avant que je partage avec ces nobles seigneurs le pain et le sel, il est juste que je fasse connaître mon nom et le but de mon voyage. » À ce début, tout le monde garda le silence. « Je suis venu, » continua-t-il, « vous accuser de félonie et trahison contre le service des dames, et je vous défie au combat, soit un contre un, soit moi seul contre tous. Voilà mon gant. » À ces mots, un tumulte inexprimable s'éleva dans toute la salle, et tous les chevaliers sarrasins se disputèrent l'honneur de punir la folie de cet insensé. « Qui es-tu ? » demanda Marsil. Roland se redressa et d'une voix tonnante, « Je suis le comte Roland, et voici Durandal. » À ces mots, les plus braves pâlirent et regrettèrent d'avoir accepté le défi. Marsil lui-même en tressaillit jusqu'au fond des entrailles. « Cette dame, » continua Roland, « est la belle Corisande, princesse de Grenade, que Ferragus a dépouillée de son héritage et réduite à fuir en France. » Cependant, le roi délibérait en lui-même s'il devait fuir ou commencer l'attaque. Il donna tout bas l'ordre de fermer les portes de Saragosse. Si bas qu'il eût parlé, le chevalier l'entendit. « Fermez les portes de la ville et du palais, fermez les portes de la salle, le lion est dans la bergerie. Quoi ? Parmi tant de braves chevaliers qui vivent à votre cour, ne se trouvera-t-il personne qui ose se mesurer avec moi ?»« Ventre Mahom ! » s'écria l'orgueilleuse Argirode d'Aspès, sultan de Babylone. « Un chien de chrétien nous bravera-t-il impunément ?» En même temps, il tira son cimeterre et en porta un coup furieux à Roland. Le brave chevalier para le coup avec Durandal et répondit à son tour en fendant avec le tranchant de son épée le casque, la tête et le tronc de son ennemi. La cervelle et les entrailles du sultan de Babylone rejaillirent sur la muraille et jusque sur le roi Marsil. À cette vue, tout le monde frémit. Roland profita de la frayeur générale pour enlever Corisande. Il ouvrit la chambre de la reine, femme de Marsil, y déposa son précieux fardeau, referma la porte, se plaça au-devant et, rassuré désormais sur le sort de la princesse de Grenade, il continua gaiement le combat. Deux des chevaliers les plus renommés de la cour de Marsil, le fier Balugan, émir de Tolède, et l'invincible Barbarastro, s'avancèrent ensemble contre lui et, saisissant leur lance qui était appuyée contre la muraille, voulurent l'en percer en même temps. Mais Roland, sans s'étonner, saisit un trépied de bronze et le lança à la tête de Balugan. Le trépied emporta comme un boulet la tête du malheureux émir, troua la muraille qui était épaisse de plus de 20 pieds et tomba dans le fossé du château. Le corps sans tête de Balugan se roula convulsivement à terre, les bras étendus. À cette vue, l'invincible Barbastro frémit et d'une main mal assurée poussa sa lance contre Roland. Celui-ci part le coup avec son bouclier et la lance se brisa comme un verre fragile. Le comte d'Angers sourit avec mépris. « Durandal est d'une meilleure trempe, » dit-il. En même temps, il frappa le malheureux Barbastro à l'épaule. L'armure fut tranchée et l'épaule avec le bras détaché du corps. Le sarrasin poussa un horrible blasphème. Par la blessure ouverte, on voyait son cœur palpiter comme les entrailles des victimes. « Montjoie Saint-Denis et Roland à la rescousse !» cria le comte d'Angers. 30 émirs se précipitèrent en avant pour venger la mort de leurs amis. Mais gênés par leur nombre même, ils tombaient sous les coups du paladin comme l'herbe sous la faux. Les sarrasins commencèrent à reculer. « Allons !» cria Roland. « Êtes-vous sans courage ou vos dames ne valent-elles pas un coup de lance ?»« Ouvrez les portes !» dit le roi Marsil. « Ce n'est pas un homme, c'est un fils d'Eblis, le roi des mauvais génies !» Et donnant l'exemple, il sortit le premier de la salle. Les chevaliers se hâtèrent de le suivre et les écuyers ne restèrent pas en arrière. Bientôt, le comte d'Angers se trouva seul. Il ferma et barricada avec soin les portes de la salle, remit Durandal au fourreau, puis alla chercher Corisande et dit d'une voix respectueuse « Princesse, il est déjà midi et vous devez avoir grand appétit. Quant à moi, je meurs de faim, déjeunant. » Là-dessus, il lava soigneusement ses mains toutes sanglantes, les essuya avec la serviette du roi Marsil et s'assit pour manger, aussi tranquille que si la table du festin eût été la propre table de l'empereur Charlemagne.